Bah en fait, quand une fille elle va s'habiller, elle va mettre un décolleté, des habits un peu moulants directement, il y a un garçon ou quelqu'un comme ça qui va venir la voir en mode « Ah ouais, toi t'es une tana en fait !» genre.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ces nouveaux mots, ces nouvelles expressions que vous entendez peut-être dans les médias ou dans la bouche de vos ados et qui vous intriguent. Aujourd'hui, j'aurai une pensée émue pour toute l'équipe de l'heure des pros. Pascal, Gilles William, Elisabeth et tous leurs copains de CNews qui, alors qu'ils se remettaient à peine de notre émission sur les bringueuses l'autre jour, ces soirées en non-mixité réservées aux femmes, qui avaient fait dire à Elisabeth Lévy
« Sabrine !»
Et à Gilles William Golnadel, pas avec nos impôts, pas avec nos impôts. Voilà que le wokisme remet déjà le couvert dans Zoom Zoom Zen avec un thème qui inspirera certainement à l'ami Pascal Praud un débat avec le bandeau « Jusqu'où iront les gauchistes ?» Puisqu'aujourd'hui nous allons zoomer sur un pays imaginaire, inventé par des femmes pour les femmes et dont les hommes sont bannis. Ça se passe en ligne et ça s'appelle Tanaland. Oui, Pascal, j'avais annoncé que ça ne te plairait pas. Et pourtant, Pascal, vu le nombre de femmes qui s'y retrouvent, vu l'engouement que suscite sur les réseaux ce Tanaland, on va y consacrer une heure d'émission sur le service public avec tes impôts, les miens et même ceux d'Elisabeth Lévy. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Bonjour Mélissa Amneris-Candelier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter. Vous êtes militante féministe, activiste et vous vous définissez comme une baddie engagée.
C'est ça.
C'est quoi une baddie engagée ?
Alors une baddie engagée, à la base c'était une bad bitch engagée. Donc c'est un peu l'ancêtre de la Tana. Mais la descendante de la bimbo. Bon, les mots évoluent, hein, c'est une langue vivante, hein, le français.
Mais il y a une filiation.
Exactement. Sauf que bad bitch, les gens le prenaient un peu trop littéralement parce que les gens traduisent comme si badass c'était des mauvaises fesses. Là, imaginez ce que ce serait. Donc ils me demandaient si j'avais des plateformes privées. Des choses comme ça, je me suis dit, bon, on va le lisser un peu, Insta va préférer, on va être engagé.
Vous présentez chaque semaine sur votre chaîne YouTube un talk show qui s'appelle Deep, dans lequel vous donnez la parole à des personnes engagées sur un sujet de société. Vous avez aussi fait beaucoup parler de vous grâce à une vidéo virale sur TikTok dans laquelle vous décrivez une journée ordinaire, mais sans les inventions faites par les femmes. C'est aussi sur les réseaux sociaux donc, que se développe ce fameux Tanaland. Vous allez tout nous expliquer. Juste le temps de vous présenter ceux qui incarnent cette insupportable bien-pensance de gauche qui gangrène le service public. Deux islamo-gauchistes qui se sont montré féroce avec Dominique de Villepin, impitoyable avec Xavier Muscat, l'ancien secrétaire au Trésor sous Sarkozy, et carrément désobligeant avec Jean-Pierre Raffarin, la liste de nos invités politiques, confirmant d'ailleurs le caractère intrinsèquement wokiste de notre émission. Effectivement, bien vu les champions. Manon Mariani, quant à lui, mais guérillero, salafiste, bonjour.
Oui, bonjour.
Mais d'abord, Mélissa Amneris, zoom donc sur cette nouvelle expression du féminisme 2.0. Déjà, est-ce que vous êtes vous-même citoyenne du Tanaland ?
Ah oui, évidemment.
Ah oui. On oblige,
déjà, c'est de la sororité rien que de soutenir ce mouvement-là. Et les nouvelles générations qui se réapproprient des mots, qui font des choses incroyables, où je pense que même nous, et j'ai que 27 ans, ma génération, on n'aurait pas osé le faire. Et aujourd'hui, il y a une sororité qui arrive, c'est beau à voir.
En voilà un qui n'a rien compris au principe de Tanaland. C'est super, il suffit que je mette Cyril avec 2 L comme nom d'utilisateur et le tour est joué, je peux entrer dans Tanaland et à moi les petites pépées. Ainsi parlait Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef boomer, en conférence de rédaction. Heureusement, depuis, il a enquêté sur notre sujet du jour et il est en mesure de nous raconter, Cyril, le Tanaland, d'où ça sort.
Eh bien, imaginez un pays imaginaire, justement, où les serviettes sont roses, les rues respirent la sororité et où les hommes n'ont pas le droit d'entrer. Ce lieu surréaliste ressemble à s'y méprendre au décor de Barbie, de Greta Gerwig, mais ici, pas de poupée. Gerwig. Bienvenue à Tanaland. Est-ce que j'ai dit Wing?
Gerwig. Gerwig, vous avez jeté comme une aile.
Une aile.
Wing.
Ah, aile. D'accord, ok. Et c'est donc avec le mot Tana que tout a commencé. Tana, utilisé comme une insulte. Sur les réseaux sociaux, on voit apparaître ce terme dans les commentaires de photos et de vidéos de femmes, un terme qui va servir à contourner, en fait, les règles de modération les plus évidentes. Comme sur les réseaux et normalement partout dans la vie, on n'a pas le droit d'insulter une femme en lui disant que c'est une pute, ce qui peut paraître effectivement la moindre des choses, eh bien, on va la traiter de Tana, charmant. Le mot, on va même l'entendre là.
Les jaloux me regardent à la télé. Je
le rappeur Niska, Anna Montana, la Tana des Tana des Tana, Anna oui. Montana. Pour mémoire, c'était le personnage de Miley Cyrus dans la série pour enfants de Disney.
Un détournement que les femmes vont donc se réapproprier.
Oui, plutôt que subir ces insultes à peine dissimulées, certaines créatrices de contenu vont en faire une arme d'empowerment. C'est comme ça que naît Tanaland sur TikTok, un pays virtuel 100% féminin, un pays où on refuse le patriarcat et célèbre la liberté des femmes. Un pays avec un drapeau, une capitale, un hymne et même des transports en commun et même des fringues, visiblement, garantit tout ça sans frotteur. Alors, d'où ça sort Tanaland ? Et bien de là, et ce n'est que le début, Mathieu, de notre histoire.
Merci Cyril. Mélissa Méris, pour qu'on comprenne bien ce pays imaginaire, comment il se concrétise sur les réseaux sociaux ? Ça ressemble à quoi ?
Alors c'est vraiment ça, hein, comme vous l'avez dit, il y a vraiment ce nouveau mot qui commence à arriver, Tana. Quelle que soit la vidéo, quel que soit le thème, qu'on fasse de la cuisine, qu'on fasse du make-up, qu'on parle politique, parce que même moi je parle quasiment que politique et en tout cas des sujets engagés société, je recevais le mot Tana, donc je commence à m'interroger, qu'est-ce que ça veut dire ? Je demande à mon copain et là il me dit, bah voilà, ça veut dire que t'es une pute. Bon, j'ai un peu l'habitude en tant que femme malheureusement, et du coup là il y a ce retournement de stigmate en fait qui commence à s'opérer, où il y a une femme, donc une jeune fille qui a à peine 18 ans, qui s'appelle Adja, donc c'est aussi une femme noire, on comprend que c'est vachement intéressant aussi avec toute la misogynie noire, hein, c'est très amplifié le sexisme aussi pour ces femmes-là. Ouais, en fait, elle fait un TikTok et je pense qu'à la base, elle se doute pas que ça va prendre cette ampleur-là, où elle prend sa valise et elle s'en va, elle dit, bah, puisque c'est comme ça, je m'en vais à Tanaland. Et en fait, le message prend une ampleur telle que tout le monde se le réapproprie et toutes les filles, en fait, il y a vraiment ce mouvement et c'est pour ça que la sororité, c'est un mot hyper important que moi, je connaissais pas quand j'étais petite. Franchement, le mot fraternité, j'étais en mode, ok, une sororité, c'était peut-être un truc d'université américaine, mais je connaissais pas ce que c'était. Et là, toutes les filles se sont dit, bah, ok, bah, puisque quoi qu'on fasse, on sera des Tana, quoi qu'on fasse, on va être des putes, que l'habit, l'activité, et ben on va en être, mais à notre façon. Et donc c'est un retournement stigmate incroyable. Et c'est franchement, c'est quelque chose d'assez lissé pour le coup, c'est assez pop, mais ça représente pas mal d'autres choses, comme le mouvement des 4B en Corée, comme la misandrie qui arrive de plus en plus, où il y a un rejet un petit peu de l'homme hétéro blanc. Je suis désolée, là, ça peut faire vibrer. Mais c'est un rejet par sécurité, je pense. Et donc après, on pourra en discuter plus amplement.
J'ai vu que Tanaland s'était doté de tous les attributs d'un véritable pays. La devise du pays, c'est liberté, égalité, ténacité. La capitale, c'est évidemment Tana City. Le drapeau est inspiré du drapeau tricolore avec des pans rose bonbon. La première ministre, c'est pas Sébastien Lecornu, c'est Aya Nakamura. Ça donne un peu l'idée de l'ambiance.
Oui, bah oui, pourquoi pas mettre en avant des femmes qui ne sont jamais mises en avant dans la vie de tous les jours.
Et j'ai vu la population, environ 18 millions d'habitantes. Il vient d'où ce chiffre ?
Ah ça, je sais pas du tout.
Ça veut dire qu'il y a 18 millions de personnes qui se revendiquent comme telles ou qui sont...
Bah, peut-être qu'il y a eu un sondage de l'IFOP sur ça pour demander à toutes les femmes si elles sont des Tana. Je serais très curieuse de lire cette étude, je ne sais pas.
C'est un mouvement qui est français ou qui est international ?
Bah, je pense que c'est international. Le mouvement Tanaland, je sais pas s'il a été repris ailleurs qu'en France, mais comme je vous l'ai dit, en Corée du Sud, il y a le mouvement des 4B, donc qui est un peu plus radical, mais c'est vraiment des femmes qui vont dire, en fait, on va arrêter de relationner avec les hommes, que ce soit du dating juste pour du plaisir sexuel ou jusqu'au mariage. On ne veut plus relationner avec vous tant que ça se passe mal et qu'on est opprimé par ça. Et donc là, c'est beaucoup plus intense. Il y a aussi la question de l'ours et de l'homme qui vient des États-Unis. Là-bas, c'est juste un micro-trottoir. Mmh. Et les femmes vont dire, on choisit toute l'ours. Ah oui, on choisit pas l'homme.
On pose la question, est-ce que vous choisiriez entre un ours et un homme dans telle situation ?
Et bah, dans la forêt, oui, je pense que je vais choisir un ours. C'est une vidéo qui a tourné d'ailleurs il n'y a pas longtemps où on dit à un ours non, non, et l'ours s'en va et se retourne comme s'il avait pu comprendre plus facilement le consentement qu'un homme. Donc finalement, ça se posait la question, oui.
Je me tourne vers celle qui fait trembler la République chaque après-midi par la férocité politique de ses billets, avec un format innovant cet après-midi, sans vouloir faire de l'ombre au Lacar News, c'est l'heure du Point Info dans Zoom Zoom Zen, c'est l'heure du journal de Marie Debruer.
À la une de ce journal, les tétines pour adultes. Nouvelle tendance ou fin de l'humanité ? Nous interrogerons Laurent, dit Lolo, 68 ans, adepte de la totote senior. Oh. États-Unis, c'est pas moi qui a signé, a déclaré Donald Trump à propos d'une carte d'anniversaire qu'il aurait envoyée à son copain Jeffrey Epstein. Le président américain a donc la même défense qu'un enfant de CE2 qui aurait signé maman sur son bulletin scolaire. TikTok rend-il nos jeunes toc-toc ? La commission parlementaire a rendu son rapport ? La réponse est oui. La génération des moins de 15 ans est foutue. Terminado, ciao. Un reportage d'Amandine Cracotin. Enzo a 12 ans. Depuis plus d'une heure, il a les yeux rivés sur son téléphone mobile, ouvert sur l'application chinoise de vidéos courtes TikTok. Ice cream so good. Popcorn, ice cream so good. Miaou. miaou, miaou. Salut, c'est Poupette Kenza. Miaou, 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 miaou. Ice cream so good. Pendant des heures, il fixe son mobile. Et sa maman est au bout du rouleau. Je suis sa maman et je suis vraiment au bout du rouleau. Pas fastoche d'éduquer un mioche, obsédé par la téloche de poche. Ça rime. Et fin de reportage. Merci, Amandine Cracotin. Direction les États-Unis d'Amérique, une lettre d'anniversaire graveleuse envoyée par Donald Trump à son ami, le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Les petits mots doux de Donald Trump étaient accompagnés d'un dessin de corps de femme nue. Donald Trump a démenti et a déclaré « Mais ce n'est pas ma carte de birthday. Tout le monde sait que je préfère les énormes nichons. Jamais j'aurais envoyé à mon ami Jeffrey un dessin d'une meuf à poil avec les petits tétés. Enfin, réfléchissez. Think for God's sakes. » Une défense qualifiée de pas dingue par ses opposants politiques. Donald aurait aussi ajouté « Je n'ai jamais dessiné de ma vie ». Une information fausse, hein, puisque le président des États-Unis a gagné une partie de Pictionary à la Maison-Blanche le mois dernier. Et nous avons une interview en direct de Laurent Di Lolo, adepte de la tétine pour adultes. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour Marie, merci de me donner la parole dans votre émission.
Avec plaisir.
Que j'écoute tous les jours. C'est France Bleu, c'est ça.
Oui, bref. Laurent, vous avez plus de 60 ans et vous avez une tétine.
Est-ce que j'ai une tétine? Oui, bien sûr. La question, c'est pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas une tétine? Et je veux dire, moi, j'adore ça, les tétines, avec grosse tétine, bien juteuse.
Non.
Je vais te dire, ça me rappelle les gros nichons à ma maman. Quand j'étais bébé, j'adorais. Oui,
merci, Laurent, pour votre intervention. Et on termine ce journal d'informations par l'horoscope, bien sûr. Ah. Alors, journée excellente, hein, de très bonnes énergies pour les béliers, les taureaux, les poissons, les capricornes. Les vierges, les cancers, sans oublier les lions, mais aussi les sagittaires, les scorpions, ainsi que les gémeaux et les cancers. Petit coup de mou, cependant, pour les balances. Oh. C'était le journal de Marie de Brouwer.
Merci Marie. À suivre dans Zoom Zoom, un grand serviteur de l'État, Jean-Pierre Jouyet. On va décrypter avec lui la fonction de secrétaire général de l'Élysée, et ça tombe bien puisqu'il l'a été. On ira dans la rue avec Quentin et on recevra l'écrivain Sorge Chalandon pour parler du livre de Kell, son dernier ouvrage, un programme alléchant, juste après Amy Winehouse, Valérie sur Inter.
meilleurs moments de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
Bonjour Jean-Pierre Jouyet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes ce qu'on appelle un grand serviteur de l'État, un des plus beaux CV de la République. Vous avez été directeur du Trésor, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ambassadeur de France au Royaume-Uni, secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande. On va y revenir. Et secrétaire d'État aux Affaires européennes sous Sarkozy, cette fonction-là, elle ne figure pas dans votre notice biographique en quatrième de couve. C'est un simple oubli de l'éditeur ou...
Je pense que c'est un oubli, ce que je lui avais dit.
D'accord. Jean-Pierre, la seule occasion pour le grand public de voir et d'entendre le secrétaire général de la présidence de la République, c'est lorsqu'il annonce la composition d'un gouvernement sur le perron de l'Élysée. Pourquoi c'est au secrétaire général de l'Élysée de faire cette annonce et pas au Premier ministre ou au président de la République ?
Parce que c'est là aussi une tradition française, et comme le gouvernement est présenté au président de la République par le Premier ministre, et que nous sommes dans un régime qui est quand même dominé par la personne du président de la République, c'est au secrétaire général à faire cette présentation sur le perron de l'Élysée.
Quelques mois après votre prise de fonction, vous vous présentez sur le perron de l'Élysée pour annoncer la composition du deuxième gouvernement en valse, dans lequel figure Emmanuel Macron, ministre de l'économie. Vous l'annoncez dans un sourire à peine dissimulé. Qu'est-ce que c'est que ce sourire ? Qu'est-ce qu'il traduisait ?
Bien, il traduisait le fait que j'étais heureux qu'Emmanuel Macron devienne ministre de l'économie, puisque dans mes fonctions et dans les réunions que nous avions eues avec le président Hollande et Manuel Valls, j'avais proposé qu'Emmanuel Macron soit ministre à ce moment-là. Et par conséquent, j'ai fait une entrave au code qui existe lorsqu'on présente le gouvernement, c'est que vous ne devez avoir ni interruption, ni sentiment exprimé. Ce qui n'a pas été mon cas à ce moment-là.
Vous avez été puni, Jean-Pierre ?
Eh bien, par la suite, on a fait davantage d'annonces de changement de gouvernement par communiqué de presse que par le secrétaire général sur le perron de l'Élysée.
On l'oublie, mais Emmanuel Macron avait décidé de se mettre au vert à ce moment-là. Il avait quitté son poste de secrétaire général adjoint de l'Élysée. C'est à ce moment-là que vous l'avez rencontré ?
Non, je connaissais Emmanuel Macron depuis 2005 et je l'ai connu au ministère des Finances lorsque je dirigeais l'inspection des Finances, puisqu'il était lui-même inspecteur des Finances, c'était un de mes adjoints à l'inspection des Finances.
Vous l'avez repéré, du coup, d'une certaine manière.
Et je l'avais repéré, j'avais vu son tempérament, j'avais vu son empathie, j'avais vu un certain nombre de choses chez lui.
Vous pensiez qu'il irait si loin ?
Je ne le pensais pas à l'époque et j'ai mis du temps à m'en rendre compte, si vous, pour être tout à fait direct avec vous.
Néanmoins, une fois président, il vous a un peu ghosté, c'est ce que vous racontez vous-même. Il ne répond plus à vos SMS. Vous dites « Je suis passé en l'espèce de 24 heures du statut de mentor à celui d'infréquentable, devenu gênant, encombrant ». Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé ?
Ce que j'ai compris, c'est que j'étais trop proche de François Hollande et qu'il souhaitait lui-même assumer une sorte de rupture avec le hollandisme et que j'étais une des personnalités proches de François Hollande. Néanmoins, il m'a nommé ambassadeur au Royaume-Uni.
Ce qui n'est pas mal, c'est vrai, Jean-Pierre. Voilà. Mais on vous parlait d'empathie, mais ça c'est un peu étrange parce qu'il aurait pu très bien publiquement, pas vous désavouer, mais en tout cas prendre vos distances tout en restant sympa avec vous dans la sphère privée. Répondre à
oui,
vos SMS.
Tout à fait.
Mais ça en dit peut-être quelque chose de son tempérament.
Mais ce que j'ai regretté, c'est effectivement de ne pas aller à l'Élysée, de ne pas partager, si vous voulez, un verre ou fait à la présidence de la République, compte tenu des années où nous avons travaillé ensemble.
Quentin.
Notre nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, a été choisi plus vite que François Bayrou ne l'avait été. Dans ce genre de situation, quel est le rôle du secrétaire général de l'Élysée ? Est-ce qu'il met la main à la pâte ?
Alors, en ce qui concerne le Premier ministre, le secrétaire général de l'Élysée n'intervient pas. C'est véritablement un choix personnel du président de la République. Là-dessus, c'est le président qui décide. Il peut en parler avec son secrétaire général, mais de ce que j'ai vécu sous François Hollande, il n'y avait pas eu, lors des nominations de Valls, ou en ce qui me concerne de Bernard Cazeneuve, de consultation du secrétaire général.
lui aussi vient de Normandie, mais il est beaucoup trop à gauche pour avoir tapé dans l'œil d'Emmanuel Macron. Quentin, c'est dans la rue que vous êtes allé vérifier si les gens connaissaient l'existence déjà de ce poste de plus haut collaborateur du président de la République, finalement.
Et je marche non loin d'un marché qui s'installe, les odeurs de poisson, de poulet rôti mélangées à celles des moteurs des scooters qui passent sur le boulevard d'à côté. Ce monsieur, cheveux frisés grisonnants, lunettes argentées, sort de nulle part en me demandant c'est pour quelle émission ?
C'est pour Zoom Zoom Zen.
Je m'en doutais.
Secrétaire général de l'Élysée, bah, il est de Macron, enfin, comme un secrétaire qui fait tout le travail en sous-main, enfin, qui est au courant de presque tout, quoi, et qui doit lui refaire remonter, sauf qu'il ne doit pas être au courant de ce qui se passe en bas, dans, ici, là, sur le trottoir.
Ah, je devrais peut-être, moi, postuler.
Ça serait peut-être pas mal, ouais. Parce que, en plus, toi, tu vois plus de monde que lui, que tu interviews, là, qui sont des gens aussi bien comme moi ou comme le monsieur qui arrive, là.
Donc il y a quand même une forme de déconnexion, même sur ce poste de l'ombre. Non,
mais ça c'est clair, ça c'est clair.
Je vais envoyer mon CV.
Vas-y.
Quentin Luy, secrétaire général de l'Élysée. Ça sonne bien, Jean-Pierre ?
Non.
Oui.
Non. Vous essayez de ne pas être déconnecté de la base. Moi, ma part, j'allais toujours justement en Normandie pour voir quelles étaient les réactions par rapport aux décisions qui pouvaient être prises et tout cela. Et donc je le faisais.
Je marche dans Paris et sans y prêter attention, je me retrouve rue de Tournon, devant le numéro 4 où est écrit sur une plaque « Est mort dans cette maison le 26 septembre 2019, Jacques Chirac ». C'est ici que je croise Louis, retraité, à qui je fais lire la liste des anciens secrétaires généraux.
À Jacques Attali. Oui, c'est le nom qui me dit quelque chose, oui, en effet,
secrétaire
politique.
Secrétaire général de l'Élysée sous Chirac, Dominique de Villepin.
Ah, de Villepin, bah oui, tout à fait.
Donc c'est plutôt un rôle de l'ombre.
C'est le Richelieu de l'époque, quoi.
Jolie référence, Richelieu. Ouais. Je décide de me rendre dans la pouponnière des hauts fonctionnaires Sciences Po, à Paris. Ici, je tombe sur Hicham, à qui je demande de m'expliquer la fonction de secrétaire général de l'Élysée.
Je pense qu'on peut difficilement l'imaginer, hein, parce que c'est quand même des métiers assez chargés. Je sais qu'on a l'habitude, moi je viens du nord de la France, l'habitude de les appeler les planqués. Ces métiers un peu en backstage, du coup en arrière, ouais, qu'on voit moins que des métiers de premier plan, ministre, président, député, etc.
Comme avec Louis, faisons un tour des anciens.
Claude Guéant, oui, Claude Guéant, oui, surtout pour l'aspect communication, parce qu'il y a beaucoup il y a les scandales, notamment avec l'affaire Kadhafi, oui, exactement. À partir du moment où on est la personne qui administre, enfin qui s'occupe de l'agenda du président de la République, qui a aussi beaucoup un rôle de représentation, forcément des influences dessus. Ouais.
Claude Guéant, il n'a pas été épargné, hein.
Ah non, pas du tout, même par Sarkozy lui-même, il n'a pas épargné, même dans ses propos. Ouais.
Alors c'est vrai que c'est important de le noter, dans l'ombre, mais à l'abri de rien, niveau responsabilité. Hicham, il me confie que Sciences Po est une fabrique à élite, mais que niveau diversité des profils, c'est de mieux en mieux, 30% d'élèves boursiers, dont il fait partie, mais bon, ça ne suffit pas toujours.
Une déconnexion, oui. On parlait par exemple, ok, anecdote, hier soir, on parlait justement de salaire et tout à la sortie notamment, et on parlait de salaire d'un serveur en banlieue parisienne, enfin en région parisienne. Et moi j'avais évoqué le truc de avec des pourboires et tout, mais il y a des salaires qui se font 2005, voire plus. Attention, c'est pas la majorité, hein. Je suis bien conscient, moi je suis travailleur aussi à côté. Et la personne m'a répondu, mais 2005 c'est rien du tout. Alors que 2005 c'est beaucoup beaucoup plus que le SMIC, c'est deux fois le SMIC quasiment. Et
j'imagine que ça venait pas d'un étudiant boursier.
Pas du tout.
La déconnexion commence peut-être déjà sur les bancs des écoles qui forment nos futurs dirigeants. Mes dernières rencontres sortent de cours.
Ina, Laura. Nous, on n'était pas à Sciences Po avant, donc c'est notre première année à Sciences Po. Et je crois que moi, ce qui m'a quand même choquée, c'est à quel point c'était un petit monde. Que genre, on a beaucoup de gens connus, des hauts fonctionnaires de l'État qui viennent parler dans les amphithéâtres. Il y a toujours une petite blague, quand j'étais sur vos bancs, à votre place. Et j'ai l'impression qu'à la fac, on n'entend pas du tout parler de ses carrières ou de ses postes, alors qu'à Sciences Po, c'est vraiment...
Ah oui, il y a certainement sur les bancs actuels le futur secrétaire général de l'Élysée, quoi.
Exactement.
Et je leur apprends l'existence d'Emmanuel Moulin, donc le nouveau secrétaire général de l'Élysée qui a remplacé Alexis Kohler. Et nous regardons la liste des personnalités politiques qui ont occupé cette fonction.
C'est que des hommes. Ouais. C'est ça la conclusion qu'on doit. Mais j'imagine que c'est que des hommes blancs, assez bourgeois.
Si vous regardez la tête qu'a Emmanuel Moulin.
Ah ben voilà.
Un regard qui tue.
Né le 22 octobre 68 à Versailles.
Oh là là.
Ah, qui dit bien à quel point elles sont blasées.
Bah, c'est chaud pour quand que dans une démocratie représentative, on n'est pas le corps des représentants qui ressemble aux électeurs, quoi.
Ça va changer.
Surprise, quoi. Avec Ina. comme président.
Avec la révolution.
Quand Ina va être président.
Exactement. Avec demain, peut-être. Quand
sous
on
moi,
dans les
ça sera que des femmes que des... et des personnes non binaires.
Et du coup, quand vous serez très âgée, ce sera les archives de l'INA.
Oh, la pas mal.
Journaliste pour rien.
Sciences Po a beau mettre en avant ses 30% de boursiers, ça reste encore la même histoire, un entre-soi feutré qui produit souvent des profils clonés qui finissent vite par se dissoudre dans l'uniforme de costume bleu. On dit même bleu Macron maintenant.
Bonjour Sorge Salandon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Sorge, vous êtes journaliste, grand reporter. Vous êtes entré à Libé au moment de la création du journal. Vous collaborez aujourd'hui au Canard Enchaîné. Vous avez reçu, il faut le mentionner, le prix Albert Londres en 1988. Depuis, vous enchaînez les prix et les succès littéraires. Prix Médicis pour Une Promesse, Grand Prix du roman de l'Académie française pour Retour à Killybeg. La liste est longue, le Goncourt des lycéens pour le quatrième mur. Et là, vous revenez avec le livre de Kells chez Grasset. C'est l'une des sorties les plus attendues de cette rentrée littéraire. L'histoire à peine romancée de votre arrivée à Paris. La misère, votre engagement politique après votre rencontre avec des militants maoïstes. Ensemble, on va parler de l'engagement, plus particulièrement de l'engagement des jeunes, comme ça a été votre cas au début des années 70. Est-ce qu'aujourd'hui, vous direz que l'engagement politique est trop policé? Quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, on parle souvent de violence, mais est-ce que finalement, il en manque un peu, selon vos critères de l'époque en tout cas?
Non, il y a une chose qui... Pour moi, y compris donc dans les extrêmes, puisqu'on parle de ça, ou y compris dans la violence, j'ai pas de souvenir, par exemple, dans les pires moments des bagarres les pires, qu'on s'en prenait à des vitrines de bouchers, à des abribus. Ça, c'est un truc qui était absolument inconcevable. C'est-à-dire que nous, ce qui se passait, c'est que notre ennemi, ou notre adversaire en tout cas, c'était Occident, puis Ordre Nouveau, puis le Rassemblement National qui est devenu aujourd'hui Rassemblement National. Et ces gens-là, on voulait qu'ils se taisent. Mais on savait que si on tapait une voiture, par exemple, ça serait totalement contre-productif. Donc le problème, c'est que si la police était entre eux et nous, on chargeait la police, mais à aucun moment il nous serait venu à l'idée de brûler une mobilette, etc. C'était pas possible.
Et donc, vous chargiez avec vos poings, vous aviez des armes.
Il y avait des bombes incendiaires, il y avait des grenades d'exercice qui avaient été évidemment vidées, mais remplacées par autre chose. Il y avait des barre de fer, c'est-à-dire, et en face, Ordre Nouveau et Occident avaient de grandes lances, comme des lances des Zengakuren japonais. Ah oui. Donc, tu voyais en face de toi 1000 personnes avec des grandes lances, comme ça, c'était extrêmement impressionnant.
Comment vous observez, sur Chalandon, l'engagement des jeunes aujourd'hui? Engagés politiquement, engagés aussi dans la rue, on l'a vu hier sur des images face à la police.
Bien sûr, oui, mais cogner la police n'était pas pour nous le but. Le but, c'était de faire taire les pires, les racistes, les antisémites, etc. Si la police était au milieu, tant mieux.
Il n'y avait pas une haine anti-flic.
Il y avait une... J'aime pas le mot haine, mais c'est-à-dire que dès l'instant où on était persuadé, certains, et on le voyait, que les gens que l'on haïssait, effectivement, étaient protégés par eux, c'était la même chose. Il fallait qu'on les défende tous.
Mais
et
les jeunes, vous les trouvez plutôt endormis sur l'engagement?
Pas du tout. Non, enfin moi je sais que j'ai une fille de 21 ans là, qui n'a jamais manifesté, rien du tout. Et puis tout d'un coup, je l'ai vue non seulement aller pour la première fois à la manif pour le droit des femmes, mais en plus se mettre à véritablement insulter les féministes de Némésis, d'extrême droite, etc. Ça lui ressemble pas. Je sais pas comment ça se fait, je sais pas d'où c'est venu, mais une fille, ma fille, que je connais parfaitement bien, tout d'un coup se retrouve dans la rue à traiter de facho des femmes, des fausses féministes identitaires. Je me dis, ça passe par quelque part quand même.
Mais est-ce que pour vous, il faut quand même toujours aller dans la rue aujourd'hui? C'est toujours important que la jeunesse soit dans la rue, parce que maintenant, on peut aussi manifester via notre téléphone, via nos réseaux sociaux. Il faut toujours être présent dans la rue.
Je pense que le plus beau monument de Paris, c'est la barricade. À tout jamais, je pense que la rue reste le lieu de la confrontation. Mais il ne faut pas que la rue soit absolument systématique, mais pas les réseaux sociaux. Enfin, j'ouvre les réseaux sociaux, je verrai que le 11 septembre n'a pas existé, donc ça va.
Pour, justement, vous disiez, pour faire taire les pires, comme vous dites, vous êtes allé jusqu'à infiltrer des manifs du camp de l'extrême droite. Vous êtes rasé la tête.
Oui, j'ai des photos.
Vous avez des photos. Et donc, vous faisiez quoi? Vous rasiez la tête pour passer pour un nasillon et vous mettiez là-dedans.
On se rasait la tête,
et ensuite,
on allait dans la manifestation avec tous les gens, les l'Oden vert, etc. Et les gros blousons, etc. Et on se rapprochait le plus de ceux qui étaient le plus véhéments. Et alors qu'ils marchaient pacifiquement en hurlant les Arabes dehors, et ben tout d'un coup on hop, comme le cheval de Troie, on sortait de leur manifestation et on les pourchassait de l'intérieur. Et donc c'était la surprise absolue. Ils le faisaient aussi, mais en moins grand nombre.
Et vous n'avez aucun regret sur les actions commises à cette époque-là?
Aucun.
Vous le referiez pareil?
Bah, j'ai un problème, j'ai 73 ans, j'ai un peu mal à la colonne vertébrale, mais si je suis... Enfin, moi, ce que je veux, c'est que... Enfin, ce que je veux, c'est toujours une violence juste. Je veux que...
Mais c'est quoi une violence juste, sur Chalandon?
Une violence juste, c'est que si un antisémite m'explique qu'il faut tuer les Juifs ou que la Shoah n'a pas existé, je vais pas lui réexpliquer que c'est pas bien, quand même. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'il ait peur. Je veux que la peur, elle change de camp. Et ce que je veux, c'est qu'il court très 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 vite. Et si c'est pas moi qui cours, bah, c'est des gamins qui vont courir à ma place.
Mais vous pensez, on comprend cette réaction épidermique face à quelqu'un d'innommable, mais comment vous pensez que ça va faire changer les choses? Parce qu'il va avoir peur,
non.
Mais après, il va juste...
Juste, je veux... C'est pas de la justice. Je veux pas que ça change les choses. Je veux simplement que lorsqu'on crie mort aux Juifs, mort aux Arabes, etc., qu'à un moment donné, on ait un peu peur qu'il y ait un petit sorge derrière, ou des petits jeunes derrière, et qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Il ne faut pas confondre les opinions et les délits. C'est un délit, c'est pas à moi à les faire payer, évidemment. Mais je ne veux pas vivre dans le même monde, dans la même rame de métro, dans le même restaurant, dans la même rue qu'un raciste. Je
faire.
Ne veux pas.
Merci Sorge Chalandon. Je rappelle votre dernier livre, le livre de Kell, c'est paru chez Grasset. À suivre, un Zoom Zoom test spécial famille royale d'Angleterre et quelques confidences d'un ancien correspondant à Buckingham Palace. La veille sanitaire qui vous explique le bazar lié au règlement européen Chat Control. Et puis on accueillera ce bon vieux GC. Le temps de s'écouter Billie Eilish, l'amour de ma vie sur Inter.
I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I looked in your eyes. But I need to confess, I told you a lie. I said you my life, the love of my life. Did I break your heart? Did I waste your time? I tried to be there for you, then you tried to break mine. It isn't asking for a lot for an apology, for making me feel I could kill you if I tried to leave. You said you'd never fall in love again because of me, then you moved on immediately. But I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I looked in your eyes. But I need to confess, I told you a lie when I said to you, you were the love of my for you.
Zoom Zoom Zen.
Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, me disait souvent Stéphane Bern du temps où on bossait ensemble. J'aurais donc été gêné de ne pas lui dédier ce quiz sur les Windsor, d'autant que dans sa grande mensuétude, Stéphane a eu la gentillesse de nous enregistrer une petite intro. Alors, c'est pas un alexandrin, mais bon, c'est Stéphane, quoi.
On tire les rois à Bourg-la-Reine. Mais...
Merci Stéphane, c'est toujours bon d'avoir un vrai historien pour parrainer un quiz. Jouons au Zoom Zoom Test. Et pour cette première question, direction 1324, Édouard II nous pond une loi jamais abolie depuis qui permet donc à Charles III, en toute décontraction aujourd'hui en 2025, de pouvoir librement cracher sur les chaussures de ses sujets, de pouvoir librement entrer chez tout citoyen anglais sans demander sa permission pour y déposer son étron royal,
mais non, mais
ou d'être automatiquement génial, propriétaire de toutes les baleines, dauphins et autres esturgeons se trouvant dans les eaux territoriales britanniques. Pour vous, c'est l'étron royal, évidemment, Quentin.
Mais
c'est une loi de 1324 à l'époque.
J'ai dit c'est moi.
Il n'y avait pas de toilette.
Il n'y avait pas de toilette, c'était très pratique. Logique qu'il ait le droit d'entrer chez vous.
On le saurait.
On le saurait, pourquoi pas. Non, non, c'est une bonne réponse de Manon Mariani. Oui, mais oui, réponsez, vous auriez adoré la paix. Mais vu que Charles emmène sa propre lunette de WC en voyage, il n'est pas prêt de poser une pêche chez monsieur et madame tout le monde, Mr. and Mrs. Everybody. En revanche, si l'un de vos hobbies favoris est de pêcher à la baleine, comme Spencer lui, l'oncle milliardaire de Quentin au large des côtes britanniques, sachez que toute poiscaille pêchée à moins de 5 km des côtes est automatiquement la propriété de Charles III. Une loi qui concerne également les cygnes sauvages, longtemps plat de fête dans la gastronomie anglaise, si toutefois on peut parler de gastronomie anglaise. Pierre Courade aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Heureusement, on l'a bâillonné en régie. C'est mieux comme ça, c'est mieux pour tout le monde. Mais continuons notre balade.
Ça va enregistrer
des Windsor. Oui, bien sûr. Continuons notre balade au pays des Windsor qui, vous le savez certainement, ne s'appelle Windsor que depuis 1917. Parce que quoi ? Parce que Saxe-Bourg-Gotha, ça faisait un peu boche. Parce que Orléans-Montpezat de la Péchardière, ça faisait trop français. Ou parce que Polignac-Bétain-Bourbon, ça faisait un peu yèche.
A et B.
Comment ça, A et B, c'est là où vous n'existez pas. Là, il ne peut pas y avoir plusieurs possibilités. Ils avaient un nom, ils n'en avaient pas 18. C'est une bonne réponse de Manon Mariani. Une fois de plus, Quentin.
Elle a regardé dans le sens.
Comme en 1917, les Fridolins n'étaient pas en odeur de sainteté en Angleterre, responsable d'un conflit dans lequel le Royaume-Uni s'était engagé à contre-cœur, la famille royale Saxe-Bourg-Gotha s'est dit qu'il fallait changer tous ses titres et ses noms de famille allemands pour des titres et des noms à consonance anglaise. 9 ans plus tard, la future reine ne sera donc pas baptisée Frida, comme c'était prévu, mais Elisabeth. Elisabeth II sera pendant ses 70 ans de règne comme une mère pour les Anglais, une incarnation même de la monarchie, digne, élégante, jamais un faux pas, sauf peut-être cette idylle fugace qu'on lui prête avec Quentin lui. Elisabeth II, outre ses qualités de souveraine, justement, c'est ça qui l'excite. Elisabeth II, qui outre ses qualités de souveraine, avait développé de nombreuses compétences, comme par exemple pouvoir changer le carburateur d'un véhicule de combat, savoir reconnaître un avion au bruit de son moteur, comme Pierre Courade, ou jouer God Save the Queen à la flûte à bec.
B.
Ah.
Je vous donne l'opportunité de votre réponse. Bonne réponse de Quentin lui. Elle savait tout faire, la babette. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, elle avait les mains dans le cambouis en 44, alors qu'elle était tout juste majeure. Celle qui n'est encore que princesse, elle se porte volontaire auprès des forces armées. Déterminée à mettre la main à la pâte, la future reine d'Angleterre insiste pour rejoindre l'ATS, l'Auxiliary Territorial Service, la branche féminine de l'armée britannique, quoi, où elle suivra une formation pour être mécanicienne, puis conductrice d'ambulance et de camions militaires. Elle expliquait en outre pouvoir distinguer un avion allemand d'un avion anglais à l'oreille. En revanche, elle n'a jamais su jouer l'hymne britannique à la flûte à bec. Pour ça, il y a Cyril Lacarrière. Que vous l'entendez, vous l'entendez.
C'est encore en répète, visiblement. Ouais.
Non, c'est simplement qu'il déteste les Anglais.
Il apprend.
Puisqu'on parle royauté et mécanique, Manon et Quentin, savez-vous pourquoi Charles III ne montre jamais son permis de conduire et son passeport? Parce que ça va, on le connaît quand même. Bon. Parce qu'il est atteint de phobie administrative, ou parce que avoir des documents à son nom, sachant que tous les documents sont émis en son nom, serait idiot.
C'est.
Je suis devant, je crois.
Qui est? C'est Quentin qui est devant. Maintenant, je suis désolé. Le roi Charles III est le seul citoyen britannique dispensé de passeport et de permis, documents qui sont justement émis en son nom, frappés à son effigie. Le gars, il a des signes et des esturgeons, mais pas de permis.
Il n'a pas de permis, c'est fou ça.
Ils sont cons, c'est rebiff, je les hais, commentera Cyril Lacarrière, marqué au fer rouge du déshonneur depuis que son ancêtre Childéric est revenu eunuque de Waterloo, son membre charnu étant resté accroché sur une baïonnette de la perfide Albion. Cyril, qui avec son franc-parler habituel, sait s'exprimer clairement quand il veut écourter une conversation.
Silence, chroniqueur de bas étage.
Ce que ne pouvait pas faire la reine-mère, savoir-vivre royal oblige. Comment faisait donc Elisabeth II pour signaler à ses employés qu'elle voulait terminer son small talk avec un interlocuteur au hasard, le président
Chirac?
Vous mettez tous vos points en jeu. C'est-à-dire que si la réponse est bonne, vous remportez le quiz.
Elle met son sac à main sur ses genoux.
Il a confondu avec Bernadette Chirac.
Ah merde.
merde.
Mauvaise réponse.
C'est les mêmes.
Vous avez raté le quiz.
Alors voilà. je vous propose. Manon, je vous donne des propositions. Et vous, à vous de me dire. Elle mettait.
On y va, on regarde.
Elle voulait interrompre une conversation qui était embarrassante pour elle. Elle mettait deux doigts dans la bouche en faisant semblant de vomir.
Non mais.
Elle mettait son sac à son bras droit. Ou elle faisait mine de réajuster ses gants.
Ah, oh, c'est chaud.
C'est chaud,
c'est B,
que vous dites.
C'est B.
Tu penses, c'est le truc avec le sac
à main.
Pourquoi ne pas écouter quelqu'un qui nous a quand même...
Non, mais je vais suivre Quentin.
Vous suivez Quentin.
Ouais, ouais.
C'est une bonne réponse, Manon. Et c'est la victoire pour Manon Marnier. La prochaine fois que vous voyez pris au piège d'une discussion avec Pierre Courade, si jamais je mets mon fourre-tout viril à mon bras droit, ça sera le signal pour venir me sauver. Victoire des bonnes manières et victoire de Manon Mariani.
Merci.
Bonjour, Marc Roche.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Marc, vous êtes journaliste, ancien correspondant du journal Le Monde à Londres. Vous êtes aujourd'hui chroniqueur pour Le Point et pour le quotidien belge Le Soir, toujours depuis le Royaume-Uni. Votre dernier livre, Ma vie chez les Windsor, les derniers secrets de Buckingham chez Albin Michel. Vous êtes tellement proche de la famille royale britannique que la photo qui illustre la couverture du livre, c'est un dîner auquel vous participez à quelques mètres seulement de la reine Elisabeth. On reconnaît autour de la table Jacques Chirac et Michel Alliot-Marie. Autant dire que la photo n'est pas récente. C'était à quelle occasion ce dîner?
C'est à l'occasion du centenaire de l'entente cordiale en 2004, et je vais vous révéler ce que je n'avais pas osé dire à l'époque au monde, c'est que le champagne était bouchonné.
Oh. Mais, et personne n'avait mentionné. Personne
et tout le monde a dit « it's delicious ». <It's delicious.
rire> on n'ose pas dire ça. Alors que vous...
C'était quoi comme champagne?
Ah, ça, je ne m'en souviens pas. C'était la cuvée Windsor, donc leur propre cuvée.
Une piquette.
Une piquette, ouais, c'est ça.
C'est du mousseux, quoi. Marc Roche, vous avez écrit plusieurs livres sur la famille royale britannique. Cette fois, vous dites « J'ai fini par me lasser de respecter les convenances. Il y a une forme de soumission à l'ordre établi que j'ai toujours trouvé pathétique. Il était temps de briser mes chaînes. » Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme d'omerta qui persiste encore aujourd'hui autour de la famille Windsor?
Bien sûr, parce que tout le système est organisé autour du royal rota. Alors, qu'est-ce que c'est le royal rota dont j'ai fait partie pendant 20 ans? Ce sont les journalistes accrédités officiellement à Buckingham Palace. Alors, c'est un passe-droit qui vous donne accès à tous les événements royaux, aux membres de la famille royale, à leur entourage. Sans le royal rota, vous ne pouvez pas couvrir la monarchie. Mais,
la contrepartie,
c'est bien sûr que tout est balisé. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas critiquer le système. Vous pouvez de temps en temps faire une remarque amusante, et encore, vous allez vous faire rappeler à l'ordre. Par exemple, moi j'ai dit que Sarkozy, lors de sa venue officielle à Windsor, j'étais au banquet, il est parti se coucher avec Carla Bruni, votre amie, avant la reine.
Mais non.
Ce qui est une atteinte au protocole, ça ne s'était jamais passé. Le pire aurait été de la prendre par l'épaule. Mais ça s'était déjà passé. Mais aller dormir avant la reine,
ça s'était jamais vu.
Ça ne s'était jamais vu.
Vous avez reproché de l'avoir mentionné dans
Oui, absolument. Et la deuxième chose qui a fait tiquer le palais, c'est quand Elisabeth II me dit, lors d'une rencontre, vous savez, moi je suis très inquiet pour l'avenir de la France, avec Le Pen, au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002, j'espère que les Français vont bien voter. Donc, qu'est-ce que j'appelle? À l'époque, c'était Edouard Plenel au Monde. Je lui dis, j'ai la manchette. Elisabeth II vote Jacques Chirac. Et on l'a fait. Et pendant 6 mois, j'ai été écarté du Royal Rota.
Parce que la reine ne doit pas s'exprimer sur la politique. Enfin, on
la
ne doit
reine,
pas connaître ses
certainement
opinions.
Pas la politique étrangère et certainement pas la politique britannique.
Manon, aujourd'hui, dans votre veille sanitaire, vous nous parlez d'un règlement européen qui fait débat.
Officiellement, il s'appelle le règlement établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants, mais il est surtout connu pour son surnom Chat Control. Ce règlement est une proposition du Parlement européen et du Conseil européen qui date de 2022. Il a pour but d'établir des règles strictes pour combattre les abus sexuels sur les enfants, et pour ça, il préconise donc plus de contrôle sur ce qu'il se passe sur Internet, évidemment, et en particulier sur les réseaux sociaux. Alors, sur le papier, c'est une bonne idée. Selon le Parlement européen, la sollicitation en ligne d'enfants pour des activités sexuelles a augmenté de plus de 300% entre 2021 et 2023. Plus de 100 millions d'images d'enfants victimes d'abus ont été détectées sur Internet en 2023. C'est énorme. Des chiffres donc alarmants qui ne font qu'augmenter à cause de la multiplication des réseaux sociaux, notamment ceux qui ne sont pas modérés ou via des messageries cryptées, du pain béni évidemment pour tous les pédocriminels. En mai dernier, par exemple, un réseau de 55 hommes français a été démantelé via la messagerie Telegram sur laquelle ils échangeaient.
Alors, que dit ce règlement, Manon, ce chat control ?
Eh bien, que pour plus de régulation, il faut obliger les plateformes à scanner les messages privés, même chiffrés, qui s'échangent sur leur messagerie. Le Parlement européen préconise la méthode du client-side scanning. Elle consiste à ce que les plateformes insèrent des logiciels qui pourront scanner les données avant qu'elles ne soient envoyées, donc avant qu'elles ne soient chiffrées. Concrètement, vous écrivez un message sur WhatsApp, il sera analysé sur le champ avant même que vous n'appuyez sur envoyer, c'est pareil pour les pièces jointes. Et si le contenu contient des données interdites, comme des images d'abus d'enfants, il est signalé directement aux autorités et aux modérateurs.
Mais si je comprends bien, cette méthode ne fait pas l'unanimité.
Loin de là, et pour cause, vous l'avez compris, ça voudrait dire que tous nos messages seraient analysés par les plateformes, peu importe qu'on utilise des messageries cryptées comme WhatsApp ou comme Telegram. Il est vrai que donner un tel pouvoir aux GAFAM et aux autres, forcément, ça peut interroger, notamment pour les journalistes ou les lanceurs d'alerte pour qui la protection des sources et des données reste fondamentale. Sur les réseaux, ce règlement fait de plus en plus polémique. Sur TikTok, certains dénoncent cette méthode qu'ils estiment être un premier pas vers la surveillance de masse et une atteinte à la vie privée. La messagerie cryptée Signal avait aussi lancé l'alerte l'an dernier. Elle estime que ce projet pourrait en plus être exploité par des pirates informatiques, voire par des États-nations hostiles. Pour le Comité européen de la protection des données, ce règlement affecterait l'exercice des droits fondamentaux des utilisateurs. En ce moment, le hashtag StopChatControl prend de plus en plus d'ampleur avec des pétitions aux centaines de milliers de signatures. Une lettre ouverte a aussi été signée par plus de 500 experts en cryptographie qui qualifient ce projet de techniquement infaisable et de dangereux pour les libertés fondamentales.
Et comment se positionnent les pays de l'Union européenne ?
Et bien justement, ils ne sont pas du tout d'accord entre eux. Des pays s'y sont fermement opposés comme l'Allemagne, le Luxembourg, l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, la Finlande, les Pays-Bas et la Pologne. Et puis 15 autres États de l'Union européenne soutiennent publiquement le projet de loi. C'est le cas de la France. Alors pour l'instant, il semble qu'aucun accord n'ait encore été trouvé. Le vote officiel est prévu pour le 14 octobre prochain au Conseil de l'Union européenne. Alors à voir si le Parlement pourrait trouver des compromis pour que ce règlement ne mette pas non plus en danger la vie privée de millions d'Européens.
Mais avant que Skynet ne prenne le contrôle, retrouvons celui qui était dans son élément ce week-end puisqu'il nous revient de la fête de l'UMA. Bonjour Jesse.
Bonjour, c'était trop bien, j'ai vu Patty Smith. Je peux vous dire que l'IA n'est pas prête de remplacer les cocos, hein, ça c'est sûr.
Ils ont encore une longueur d'avance.
Ils sont encore bien énervés.
La chronique de Jesse, c'est juste après M et Yamé, Totem sur Inter.
France Inter, les meilleurs moments de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
Et on retrouve maintenant Jessé, alors lui, plus pessimiste que jamais, me semble-t-il.
Ah, bonjour à tous. Bon ben, 2025, hein, sale temps pour les humains. Zaz ressort un album. Voilà, mais c'est pas pour ça que le monde va mal. Pas pour ceux qui va bien non plus. Mais on apprend dans un rapport que l'IA va nous anéantir d'ici 2035. Alors déjà que les animaux et la planète pouvaient plus nous piffrer, v'là-t-il pas que maintenant c'est les machines qui veulent nous buter. Hein. Manon n'ose même plus utiliser son vibro. Ah bah du coup, la nouvelle stagiaire, elle doit tout friper.
Oh, mais c'est
ouais, je suis d'accord, ça l'histoire. Ça l'histoire, je suis bien d'accord avec toi, Manon. Enfin,
ça commence doucement.
L'IA va nous tuer, ça commence à crescendo.
On n'a pas vu venir.
Bref, l'IA va nous tuer. Enfin, ça c'est si la canicule et les moustiques hein, sont pas occupés de nous avant. À un moment donné, si plus personne peut te piffrer, faut te remettre en question. Hein, ce que j'arrête pas de répéter à Quentin. 2035, c'est demain. Hein, donc si vous avez des rêves, je sais pas, revoir Cabourg ou relire une dernière fois les mémoires d'Alain Juppé. Pardon, je m'adapte, hein, vu qu'on est maintenant apparemment une radio de droite. Voilà. Ah bah là, mais nos haters savent plus comment nous insulter maintenant. Ils sont là, mais je comprends pas, c'est des fachos, c'est des gauchos.
Ils sont tout perdus.
Tout le monde déteste France Inter, tout. Pardon, désolé, je disais le commentaire d'un troll, Emmerich Nova 17. Hein. Je disais donc, vivez vos rêves avant 2035. Hein. Par exemple, si vous avez envie, je sais pas, de pécho votre rédacteur en chef, Manon, pour toi que je dis ça. Ah oui, bah faut se lancer. Faut se lancer là, parce qu'en plus 2035 pour le père la carrière, c'est optimiste. D'ici là, c'est pas les machines qui auront raison de lui, hein, mais seulement un courant d'air. C'est le rapport IA 2027 qui nous informe que les machines intelligentes vont bientôt dépasser les plus grands cerveaux humains. Bonne nouvelle, ça concerne personne ici. Hein, les cerveaux de Pierre et Quentin étant déjà dépassés depuis l'invention de la Casio, la plus rudimentaire. Alors, personnellement, moi, j'étais au courant hein, que les machines allaient nous renverser, étant donné que j'ai vu Matrix, en fait. Voilà, d'ailleurs, je vous le dis, c'est la pilule rouge pour s'en sortir. Attention, pas la pilule bleue. Hein, c'est hein, ce qui va aider Cyril à donner une minute de bonheur à Manon. Je plaisante, ma puce, crois-moi, ça durera moins longtemps. Alors, moi, je vous avoue hein, qu'après 1h30 de trajet sous la pluie, dans un quartier qui sent autant la naphtaline que Finkielkraut, bah oui, j'ai pour ma part hâte que l'IA vienne enfin faire cette chronique à ma place. Ah non, parce que je vous entends chouiner là tous depuis tout à l'heure. L'IA est trop puissante, l'IA va tous nous remplacer. Quand, en fait? Je ne demande qu'une date précise pour ne plus avoir à me taper le résumé de Pierre Courage. En fait. Ah, et bonne chance à l'IA hein, de tenir la minute entière sans se débrancher. Ah, mais en attendant, j'ai demandé à ChatGPT, Pierre, de rédiger l'intro de ma chronique et il m'a proposé le jeu de mots suivant. IA, il y a zéro problème.
Oh non.
Voilà. Non, j'étais à deux doigts de prendre la vanne. Mais bon, si j'avais envie de faire des chroniques pas drôles, je serais à 8h55 dans la matinale.
Allez.
Les patrons de la tech seraient déjà en train de débrider les IA. Alors moi, je vous le dis, hein, si dans le futur, pour survivre, faut sucer 2-3 machines, il y a zéro souci. Voilà, je serai le premier à avaler du boulon, hein, un bidon d'huile moteur et je te les soulage, moi, les robots. Voilà, puis ça changera pas de certains mecs hein, qui avaient moins d'émotions qu'un Windows 95. Allez, je vous laisse, je dois m'occuper de Goldorak. Oh merde, je dois m'occuper de Goldorak.
Oh, de qui tu dois t'occuper? De
Goldorak.
Goldorak, go! Merci GC, merci à tous les amis à la réalisation de ce best-of. C'était la pole danseuse Alicia Vulo. Rendez-vous lundi pour parler intelligence artificielle et recevra aussi Alex Vizorek, un vieux copain, pour son retour sur scène.
Zoom Zoom Zen.